religions du monde, Geneviève Delru.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le vendredi 25 septembre à Paris, Zahir Hassan Mermoud, attaqué avec un hachoir de boucher, rue Nicolas Appert, près des anciens locaux du journal satirique Charlie Hebdo, deux journalistes de l'agence de télévision Première Ligne. Reconnaissant les faits, dès son arrestation, le jeune Pakistanais de 25 ans dira avoir agi par dégoût de la republication des caricatures de Mahomet. Avec nous en ligne, la journaliste Anne-Isabelle Tollet. Anne-Isabelle Tollet, bonjour.
Bonjour.
Vous avez alerté l'opinion publique internationale sur le cas Asia Bibi, donc cette jeune femme pakistanaise chrétienne, accusée en 2010 de blasphème par ses compagnes de travail dans les champs. Asia Bibi qui a passé près de 10 ans en prison, qui avait été condamnée, je le rappelle, à la pendaison en 2010, puis en 2014, et puis des juges très courageux de la Cour suprême ont résisté à la pression de groupes extrémistes et Asia Bibi a fini par être innocentée et exfiltrée du Pakistan. Elle vit aujourd'hui au Canada et elle est très marquée, très déstabilisée psychologiquement par la décennie noire qu'elle a vécue. Alors tout cela, Anne-Isabelle Tollet, vous l'avez raconté dans plusieurs livres. Le dernier s'intitule « Enfin libre » et il est publié aux éditions du Rocher. Vous êtes, on peut dire, une spécialiste du blasphème au Pakistan. Et comment avez-vous réagi quand vous avez appris que Zahir Hassan Mermoud donc avait agi parce qu'il avait été horrifié, n'est-ce pas, par la republication des dessins de Mahomet, des caricatures de Mahomet?
J'ai réagi, comme tout le monde, avec beaucoup d'effroi. Ça nous a replongé en 2015, où j'avais été très marquée par les attentats contre Charlie Hebdo, mais... Quand on a rapidement su qu'il était pakistanais, je vais vous dire, j'étais pas tellement étonnée en fait. Parce que ce qui se passe depuis quelques années, c'est qu'il y a de plus en plus de migrations pakistanaises vers la France. Alors que, pour être honnête, je ne comprends pas bien parce que le Pakistan n'est pas en guerre. Et l'auteur de cette attaque était originaire d'Islamabad, ville capitale du Pakistan, dans laquelle j'ai vécu avec mes propres enfants en toute sérénité. Mais ce qui est certain, c'est que ce Pakistanais, j'entends ici ou là, on dit... comment c'est possible qu'on ne puisse pas les intégrer mieux, etc. Mais moi, je suis frappée de l'ignorance en fait qu'on a en France, mais dans l'ensemble de la communauté internationale, sur ce pays. J'entends dire tout et n'importe quoi sur le Pakistan, comme si c'était un pays en guerre, comme si les islamistes et les talibans étaient aux commandes. Je rappelle que le Pakistan est une république, islamique certes, mais république, démocratique. Et la majorité des Pakistanais sont des Pakistanais modérés et il y a seulement ici ou là des fiefs talibans et quelques partis religieux qui exercent une pression sur le gouvernement pakistanais qui lui est très libéral et modéré sur les questions d'islam. Donc j'étais à la fois choquée comme tout le monde et en même temps pas étonnée que ce soit un Pakistanais.
Oui, alors on se souvient quand même des manifestations de ces groupes radicaux, certes minoritaires mais très radicaux, qui dans la rue réclamaient la pendaison d'Asia Bibi avec des pancartes et où il y avait effectivement une corde.
Eh bien, ce même groupe qui s'appelle le Tehrik-e Labaïk, qui est un parti religieux qui date de quelques années seulement, mais qui regroupe quand même 3 ou 4 millions de fidèles au Pakistan, qui ont la spécificité de défendre les lois du blasphème au Pakistan. Et en effet, ce groupe avait à la fois milité pour qu'Asia Bibi soit pendue, et ce même groupe a milité début septembre dans les rues pakistanaises contre la tenue du procès Charlie Hebdo et évidemment contre la publication à nouveau des caricatures du prophète Mahomet. Donc ceux-là, ils sont très dangereux, ils sont très nocifs, mais ce sont des fanatiques, si vous voulez. Ils veulent absolument radicaliser la société pakistanaise. Ils sont djihadistes aussi, puisqu'ils mènent d'une certaine manière une guerre sainte. Et c'est vrai que le Pakistanais qui a commis l'attentat, l'attaque à Charlie Hebdo ces derniers jours, eh bien lui, étant ourdoufone et absolument non francophone, est complètement relié toute la journée avec le Pakistan. Il a vu ces manifestations, il s'est dit « je suis à Paris, je suis près des locaux de Charlie, eh bien je vais défendre l'honneur de mon pays en commettant cet acte ». Sauf que bon, il est complètement, on ne peut pas dire qu'il soit très, très, très pertinent puisqu'il n'avait pas compris que Charlie Hebdo n'était plus là déjà depuis plusieurs années, mais de la même manière, il ne connaît pas la langue française, ils ne peuvent difficilement s'intégrer à la France parce que la France est le seul pays au monde qui soit laïque. Parce que même les États-Unis n'est pas un pays complètement laïque, puisque le président jure sur la Bible quand il est élu. Donc, c'est une notion pour le Pakistanais qui est absolument incompréhensible, la laïcité. Et donc, dès lors qu'on commet un blasphème en France, au nom de la liberté d'expression, eh bien, cet acte doit, selon eux, être puni. Et j'irai même plus loin, parce que ce ne sont pas uniquement les islamistes qui pensent ça. Le Pakistanais moyen, modéré, pense la même chose, pense que le droit au blasphème n'est pas possible, et j'irai même encore plus loin, les chrétiens pakistanais eux-mêmes ne sont pas pour le droit au blasphème. Ils acceptent que le blasphème soit un délit. Alors après, évidemment, au Pakistan, les peines sont radicales, c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est une notion que le Pakistan ne peut pas comprendre, le droit au blasphème, le droit à critiquer toutes les religions, quelles qu'elles soient, et la séparation entre la religion et l'État.
Oui, d'où effectivement son expression « France, terre de mécréants », son expression qu'on a pu retrouver dans cette vidéo qu'il a filmée la veille ou quelques heures avant l'attentat.
Bien sûr. Et de toute façon, pour les Pakistanais qui sont en France, la France n'est pas l'objectif final. Ils cherchent tous à aller en Angleterre. Je rappelle que le Pakistan est une ancienne colonie britannique, qu'en Angleterre, il y a une communauté pakistanaise considérable. On parle même du Londonistan à Londres. Ils parlent l'anglais, mais ils ne parlent pas le français. Ils n'ont aucune intention de rester en plus dans ce pays qui autorise le blasphème. Et donc, ils ne pourront jamais adhérer à la France. Donc, c'est pas très optimiste ce que je dis, mais c'est parfaitement lucide. On ne pourra jamais convaincre un musulman pakistanais qu'on peut blasphémer. D'ailleurs, quand j'étais moi-même au Pakistan, mes amis pakistanais me disaient mais chez vous, en France, vous n'êtes pas condamné si vous insultez Jésus. Ça montre bien l'ignorance absolue de ce peuple qui n'envisage même pas, qui pour lui c'était inconcevable qu'on puisse critiquer la religion auquel on faisait partie. Donc ceux qui vivent, qui grandissent dans les madrassas, eh bien voilà, toute leur vie on leur serine que le blasphème c'est le crime des crimes suprêmes, et que tous ceux qui s'en prennent au prophète Mahomet, y compris à travers des caricatures, eh bien doivent mourir, tout simplement. Et dans les écoles qui sont publiques, eh bien, il y a quand même l'enseignement de la religion, qui est le Coran, et dans le Coran, il est stipulé que toute représentation du prophète est interdite.
Dernière question, Anne-Isabelle Tollet. Ce que l'on comprend pas très bien, c'est que ce jeune donc pakistanais se réclame de la mouvance Dawat et Islami, qui est une mouvance soufie. Alors les soufis, généralement, ont l'image, peut-être d'ailleurs un petit peu trop, comment dirais-je, caricaturée, de musulmans pacifiques.
Oui, absolument. Les soufis, d'ailleurs, sont majoritaires au Pakistan. Mais le Dawat et Islami n'est pas du tout un parti modéré. C'est un parti religieux extrême qui utilise en fait la vitrine du soufisme pour pouvoir infiltrer au mieux les populations, pour pouvoir in fine les radicaliser. Mais des partis religieux comme ça, il y en a des dizaines au Pakistan. Ils empêchent la démocratie et le pays d'avancer. Et pour en revenir au TLP, au Tehrik-e Labaïk, donc ce fameux parti pakistanais qui manifestait lorsque les caricatures de Mahomet ont été à nouveau republiées par Charlie Hebdo, eh bien, le président de ce parti religieux vient de se faire arrêter par la police pakistanaise pour avoir violé un garçon de 13 ans. Et ça montre bien l'hypocrisie de ces fanatiques, c'est-à-dire qu'ils veulent faire entendre leur loi, mais ils ne respectent en fait en rien le Coran, puisqu'il est passible, selon leur vision d'islam, du crime de l'homosexualité, de pédophilie. Et donc, ça montre bien que là, on est dans du fanatisme, de l'idéologie, parce que eux-mêmes, et c'est assez courant que dans les madrassas, les chefs religieux violent les petits garçons. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que finalement, il y a du travail, quoi. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais convaincre ces gens-là que le blasphème peut être un droit et que la liberté d'expression est absolue.
Et de penser aussi.
Et de penser, évidemment.
Je vous remercie, Anne-Isabelle Tollet. Je rappelle donc votre dernier livre sur Asia Bibi, enfin libre, et c'est publié aux éditions du Rocher. Merci.
Merci.
c'est non aujourd'hui, mais ce sera non demain et après-demain.
Le collectif Marchons Enfants, qui regroupe une vingtaine d'associations, dont la Manif pour tous, a annoncé une nouvelle manifestation le 10 octobre à Paris et dans toute la France, sur un modèle un peu différent de celle organisée en octobre 2019 et au mois de janvier dernier. Crise sanitaire oblige, chaque cortège ne pourra excéder 5000 personnes. Ce collectif conteste l'extension de la procréation médicalement assistée, la PMA, aux couples de femmes homosexuelles et aux femmes seules, la mesure phare du projet de loi bioéthique qui a été adopté en deuxième lecture à l'Assemblée nationale dans la nuit du 1er août et qui doit repasser devant le Sénat. Mais dans les faits, la révision de cette loi est acquise. Et si l'Église a suivi de très près le projet de révision de la loi de bioéthique par la publication d'une large documentation, elle n'a pas pour autant appelé à manifester. Pour le père Bruno Sainteau, directeur du Centre d'éthique biomédicale du Centre Sèvres, il y a aujourd'hui d'autres enjeux.
L'Église n'a pas baissé les bras sur le fond, mais il est certain qu'il y a une sorte de lassitude, on pourrait dire, dans l'Église, chez les chrétiens eux-mêmes, en se disant, finalement, nous avons d'autres défis maintenant. C'est le défi de la crise sanitaire, c'est le défi écologique, et que sur cette mesure-là, beaucoup de chrétiens pensent qu'on ne reviendra pas en arrière, de toute façon que la loi sera votée. Donc je dirais, moi, que l'Église n'a pas baissé les bras, mais qu'elle est, pourrait dire... elle-même prise dans une lassitude générale et que les enjeux de la société sont ailleurs maintenant et que la focalisation sur cette question de l'AMP, par exemple pour toutes les femmes, n'est plus ce qui va mobiliser beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Beaucoup ont pris acte que ça allait se faire dans tous les cas, donc sont en train de penser à l'après. Une fois que ça va être là, qu'est-ce qu'on va faire et quels sont les prochains grands défis auxquels nous allons être affrontés et qu'est-ce que sera la participation chrétienne constructive aux nouveaux défis éthiques de la société, crise sanitaire, crise écologique.
Et crise économique aussi.
Bien sûr, parce que la crise sanitaire engendre une crise économique, la crise écologique engendre une crise économique, et une crise politique aussi. C'est-à-dire comment nous sommes représentés aujourd'hui, à qui faisons-nous confiance ? Et ça me paraît vraiment, cette triple crise sociale, économique, politique, me paraît extrêmement importante à prendre en compte aujourd'hui pour aborder les questions aussi de la bioéthique.
Donc aujourd'hui, vous considérez que c'est derrière et que la manifestation du 10 octobre, c'est une sorte de baroud, hein, d'honneur en quelque sorte, d'un combat qui est un combat qui appartient au passé. D'ailleurs, l'Église n'a absolument pas fait appel, enfin n'a pas demandé aux paroissiens, aux fidèles de défiler. Hein. Elle laisse chacun face à ses responsabilités et à ses choix.
Le rôle de l'Église, en tout cas les autorités dans l'Église, c'est d'éduquer la conscience éthique des chrétiens. Un évêque n'est pas là pour dire à tous les catholiques ce qu'ils doivent penser, mais il est là pour éduquer les consciences. Et tous les textes qui ont été publiés sont là pour éduquer les consciences, pour que chacun ayant mûri les arguments, et nous espérons que ce sont de bons arguments, puisse prendre véritablement une décision. Alors, cette manifestation-là ne sert pas à rien, mais on pourrait dire qu'elle ne transformera pas le vote des députés, j'en suis persuadé, parce qu'il n'y aura pas 1 million de personnes dans la rue. Donc elle ne transformera pas les mentalités, mais elle continuera à attester dans la société qu'il y a véritablement un problème. Seulement, je pense qu'il faudra poser le problème autrement.
Le poser autrement, c'est-à-dire, père Bruno Sainteau, vous avez parlé dans un premier temps de révolution anthropologique. Est-ce que vous considérez que c'est toujours une révolution anthropologique ou bien, bon, que finalement, le terme était trop fort ?
Oui, c'est un terme qui dit bien ce qui vient de se passer. Mais vous voyez, ce terme-là, chez certains, quand ils l'écoutent, ils ferment leurs oreilles. Bon, je dirais qu'il y a une transformation extrêmement profonde du rapport de l'homme à son propre corps, du rapport de l'être humain à l'engendrement. Ça, c'est extrêmement fort. Ce n'est jamais arrivé comme tel dans l'histoire. Dans l'histoire, l'humanité a expérimenté des formes de structure de la parenté extrêmement différentes, mais de pouvoir engendrer des êtres humains ou les produire de cette façon-là, on n'a jamais pu le faire. Donc il y a quelque chose d'extrêmement nouveau, et puis dans la définition des formes de parenté. Oui, il y a quelque chose de, je pense, très très nouveau, sur lequel il faut avertir. Derrière cette révolution anthropologique, il y a aussi des questions d'éthique sociale et d'éthique économique. Il y a un immense marché de la procréation aujourd'hui. Et en France, il y a eu le grand marché Porte de Champéret, où on pouvait venir se renseigner sur les manières de faire des gestations pour autrui dans différents pays, et cela en France, où c'est interdit. Donc il y a un gigantesque marché de la procréation qui me paraît une véritable question. C'est-à-dire, quand bien même la loi passe, la question de la marchandisation de la procréation, la marchandisation des gamètes est une véritable question qui est encore devant nous et sur laquelle il faudra continuer à avertir.
L'argument opposé aux détracteurs de ces lois de bioéthique et l'accès donc aux couples de femmes à la procréation médicalement assistée, c'était de dire ça va dans le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, c'est-à-dire que les familles aujourd'hui ne ressemblent plus aux familles du début du XXe siècle.
L'argument du sens de l'histoire peut être compris différemment. On peut dire que certains disent qu'en fait le sens de l'histoire, c'est d'utiliser tous les progrès ou toutes les techniques que l'humanité est en train d'inventer. Alors, est-ce que le sens de l'histoire, c'est de mettre en œuvre toutes les techniques dont nous disposons sans nous interroger sur leur finalité, leur sens, leur contribution à une véritable humanité de l'homme? Alors, cet argument-là, il peut être très bien mis en cause aujourd'hui. Est-ce que l'exploitation de la terre, c'était quand même dans le sens de l'histoire, quand on a eu la révolution industrielle, et nous espérions à ce moment-là que le développement de l'industrie, des progrès techniques, allait résoudre tous les problèmes de la condition humaine. Alors ça a fait faire des progrès, bon, des progrès, un certain nombre, et puis ça a engendré un certain nombre de méfaits que nous commençons à découvrir dans la crise écologique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que le sens de l'histoire? Je pense que l'humanité, elle utilise un certain nombre de techniques, elle a des moyens beaucoup plus grands, mais ne doit pas cesser de s'interroger sur la finalité des inventions techniques. Elles sont au service de quoi? Est-ce que les techniques d'assistance médicale à la procréation sont véritablement au service de l'humanité de l'homme? Ou bien on va développer un marché de la procréation, par exemple, on peut s'interroger là-dessus. Si vous voulez faire le lien avec des questions actuelles, est-ce que les techniques de la cinquième génération pour les téléphones portables, est-ce que c'est un véritable progrès? Nous avons en ce moment un grand débat qui a été polarisé entre les tenants de la 5G qui allait résoudre un tas de problèmes, qui allait permettre d'avoir des dispositifs médicaux connectés, qui allait nous donner un certain nombre d'informations, qui allait favoriser la médecine, qui allait nous faire de grands progrès, très bien. Et puis, vous avez la caricature d'opposer la cinquième génération à la culture Amish, comme a dit notre président de la République. Alors, vous voyez, c'est la caricature même du débat, où dans un sens, on a un progrès, la 5G, et d'autre côté, vous l'opposez à des Amish, donc des gens d'une culture religieuse qui refuseraient le progrès. C'est une très mauvaise manière de poser le débat.
Est-ce que vous avez le sentiment, Père Bruno Sainteau, que l'Église ait été les Amish dans cette affaire des révisions des lois de bioéthique?
Bon, oui, l'image est un peu caricaturale, parce que jamais on l'a employé comme ça pour parler de l'Église catholique dans les débats sur l'assistance médicale à la procréation. Mais ce que je veux pointer par là, c'est qu'une occasion nous est donnée, à la faveur de la crise écologique, de réfléchir sur notre rapport au monde, le rapport aux autres vivants, le rapport à nous-mêmes, le rapport à notre corps, le rapport aux liens humains, le rapport à la solidarité collective, le rapport à l'exploitation de la terre, des autres. Une occasion très très belle qui nous est offerte là, collectivement. Alors, moi, ce que j'espère, c'est qu'on saisisse de cette occasion-là et qu'on n'enferme pas ni l'Église catholique, ni d'autres, ni ceux qui contredisent l'Église catholique, d'ailleurs, dans des débats aussi stériles que celui que je viens d'évoquer, les Amish d'un côté et les tenants de la cinquième génération à tout prix de l'autre. Voyez. Donc, est-ce qu'on pourrait sortir de ce genre de caricature ou de mettre des progressistes dans un sens et d'affreux réactionnaires de l'autre? Est-ce qu'on peut arriver à poser sereinement les questions? Alors, si le débat bioéthique nous permet ça, je pense que ce serait une bonne chose. Mais sur des questions comme l'assistance médicale à la procréation, à mon avis, il a été enfermé dans de grandes caricatures dont a souffert l'Église catholique elle-même.
Qu'est-ce qui vous semble positif, Père Bruno Sainteau, dans ce qui a été adopté, donc en deuxième lecture, dans la nuit du 31 juillet? Est-ce qu'il y a des points où vous êtes dit, finalement, là, c'est bien, là, je suis soulagé?
Moi, j'ai entendu quelques débats à la fin, notamment, alors la première chose que je mentionnerai, c'est une prise de conscience, mais surtout du côté des communistes, finalement. Attention, il y a des sociétés privées qui veulent s'emparer de la conservation des gamètes. Et donc, il y a un député communiste qui a dit « Attention, c'est très dangereux », et moi, je suis d'accord avec ça, si nous ne voulons pas qu'un marché de la procréation s'installe. Donc, voilà. Donc, il y a des prises de conscience qui ne sont pas uniquement du côté de l'Église, mais qui me paraissent une bonne chose. Une deuxième chose, je pourrais dire que c'est la prise en compte de la souffrance des enfants nés par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, et donc en France, tiers donneur anonyme. Il a fallu 26 ans en France, puisque les premières lois sont de 1994 et nous sommes en 2020, 26 ans pour que cette souffrance de ne pas connaître la personne par qui nous sommes venus au monde, donc qui a permis notre engendrement, que cette souffrance-là, elle va être entendue. Alors, pour moi, c'est un signal éthique profond. Parce que les personnes qui demandent ça ne demandent pas une connaissance biologique. Ils demandent de connaître la personne qui. Et précisément, leur demande, leur souffrance, elle nous indique quelque chose de fondamental dans la condition humaine, et notamment dans l'engendrement, c'est que les gamètes ne sont pas des éléments biologiques à distinguer d'un corps et d'une histoire. Le corps a toujours une histoire. Et donc cette prise de conscience-là, pour moi, elle indique ce qu'indique l'Église catholique depuis longtemps, c'est l'unité de la personne, des différentes dimensions physiques, psychiques, sociales, spirituelles de la personne. Et que pour respecter les personnes, et donc c'est un signal éthique profond, chaque fois qu'il y aura une dissociation des dimensions de la personne, ou d'une des dimensions de la personne, il y a là un signal éthique profond. Et cette prise de conscience-là, en tout cas pour ces enfants, nés par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur anonyme, elle me paraît indiquer ça à tout le monde, si nous voulons bien entendre.
Le père Bruno Saintot, directeur du Centre d'éthique biomédicale du Centre Sèvres. Et l'on poursuit sur ce sujet avec Cyril de Compiègne, vice-président et porte-parole de l'association David et Jonathan, mouvement LGBT chrétien, qui avait élaboré pour les débats de bioéthique tout un argumentaire que l'on peut retrouver en ligne pour défendre l'accès de la PMA aux couples de femmes homosexuelles et aux femmes seules. Cyril de Compiègne, bonjour.
Bonjour.
Cet argumentaire défend un regard chrétien sur la PMA pour toutes. Alors, quel est le regard chrétien sur la PMA pour toutes, Cyril de Compiègne?
Alors, déjà, je pense qu'un regard chrétien, pour nous, c'est un regard qui est avant tout un regard bienveillant et qui refuse la stigmatisation pour les personnes qui ont eu accès déjà à la PMA, pour les couples de femmes qui ont eu accès à la PMA, qui ont eu des enfants par PMA. Et donc c'est déjà porter un regard bienveillant et à l'écoute des personnes concernées et qui refusent la discrimination et la stigmatisation. Et c'est porter aussi un regard qui ouvre la possibilité qu'au nom même de convictions chrétiennes et avec vraiment un projet qui soit moralement mûri, on puisse avoir un désir d'enfant qui se concrétise par des projets de PMA. Et donc nous, à David et Jonathan, on défend profondément, à partir aussi de la parole de personnes qui l'ont vécu et qui sont directement concernées par le sujet, on défend l'accès à la PMA pour tous les couples ou les femmes seules qui ont la possibilité de porter un enfant et d'avoir accès à ces techniques de procréation.
Alors, la PMA s'oppose, on le voit bien à travers les réactions de religieux aux religions, à la loi naturelle défendue par les religions.
Cyril de Compiègne, oui. Oui. Alors, nous, je pense que il faut se méfier d'un recours qui, je pense, semble assez abusif en contexte religieux et notamment catholique, du recours à la loi naturelle ou à l'anthropologie qui poserait en fait des règles intangibles et immuables et qui souvent permet de susciter la peur en fait par rapport à ce qui serait un changement de civilisation. Voilà, au contraire, l'anthropologie en tant que science sociale ou la parole des sciences sociales aujourd'hui a plutôt tendance à déconstruire ces règles que l'on pourrait considérer comme étant intangibles et à montrer une diversité des modèles familiaux, une diversité des modèles familiaux qu'on retrouve aujourd'hui dans la société. Et donc pour nous, il n'y a rien de chrétien dans le fait d'associer la loi naturelle et des principes moraux chrétiens intangibles. Au contraire, voilà, nous en tant que personnes chrétiennes, on défend la possibilité de construire des projets parentaux, y compris pour les couples homosexuels, et qui soient profondément moralement mûris et imprégnés d'une vision d'amour qui pour nous est beaucoup plus centrale dans une perspective chrétienne. Donc voilà, la volonté d'accueillir un enfant dans l'amour, dans un environnement qui soit sécurisant et aimant.
Alors, est-ce que pour vous, il y a eu une question d'égalité qui s'est posée? Est-ce que ça fait partie de votre argumentaire d'égalité entre les couples hétérosexuels qui ont accès pour des raisons d'infertilité à la PMA et les couples de femmes homosexuelles?
Alors oui, il y a un enjeu d'égalité. Il y a un enjeu d'égalité par rapport aux techniques d'accès à la procréation médicalement assistée. La procréation médicalement assistée avec tiers donneur est ouverte pour les couples hétérosexuels depuis 1994. On voit que dans la pratique, elle est ouverte à tous les couples dans la mesure où elle traite les conséquences d'infertilité, donc l'impossibilité d'avoir un enfant. Et donc au niveau de ces techniques de procréation médicalement assistée, c'est exactement les mêmes auxquelles on recourt les couples de femmes qui ont un enfant par PMA. Et donc il y a un enjeu d'égalité dans l'accès aux soins, dans l'accès à les techniques de taille à la procréation. Et voilà. Et pour nous, il n'y a pas de distinction qui devrait être posée entre les couples hétérosexuels et les couples homosexuels ou les femmes seules du point de vue de ces techniques d'accès à la procréation.
Vous rejetez, Cyril de Compiègne, à David et Jonathan, vous rejetez ce slogan utilisé par le collectif Marchons Enfants, ce slogan de PMA sans père. Et en même temps, c'est bien ça, c'est quand même une PMA où il n'y a pas de père dans un couple de femmes homosexuelles.
Je pense que c'est profondément réducteur en fait de dire que c'est une PMA sans père. C'est avant tout une PMA qui répond au projet de couple ou d'une personne seule, voilà, qui estime et qui a la volonté et un désir profondément mûri d'accueillir un enfant. Donc déjà ça c'est important. Et en plus, nous, la réflexion qu'on a menée à David et Jonathan, c'est que cette place du père, en fait, dès le départ dans le projet parental, il n'y a pas de père considéré. Il y a un géniteur qui est le tiers donneur dans la technique de PMA, mais en fait on replace un père qui n'est pas présent mais qui n'est pas non plus nécessairement un manque pour l'enfant, puisque celui-ci en fait se construit à partir des référents adultes et des parents qu'il a, quel que soit son modèle familial, et donc il y a tout à fait la possibilité pour l'enfant de se construire très sereinement dans le couple ou dans le modèle familial dans lequel il existe, et c'est profondément réducteur de réduire les modèles familiaux ou schémas papa-maman-enfant, sachant qu'on voit bien aujourd'hui qu'il y a une beaucoup plus grande diversité des modèles familiaux, et nous on rejette aussi l'idée qu'il y aurait un manque qui serait ressenti par l'enfant, un sans-père. Non, c'est avant tout des projets d'enfants, des projets qui sont mûris, qui sont construits, et c'est avant tout ça qu'il faut considérer.
C'est-à-dire qu'en fait, vous envisagez l'altérité, la complémentarité d'une autre façon que dans un couple hétérosexuel.
Alors oui, il peut y avoir une complémentarité, une altérité dans ce que les personnes apportent à l'enfant dans le cadre du couple, dans le cadre de la famille qui peut être élargie aussi à d'autres personnes dans l'entourage de l'enfant. Et oui, nous, il nous semble assez réducteur et beaucoup trop binaire d'envisager que, au nom de caractéristiques considérées comme masculines ou féminines, telle personne apporterait de manière unique et intangible telle ou telle chose à l'enfant. Nous, on préfère considérer que l'enfant se retrouve avec la diversité des personnes qui l'entourent et qu'il a tout à fait les moyens et les possibilités à partir du moment où il grandit dans un cadre qui soit affectif et sécurisé, ce que permet aussi le projet de loi bioéthique. En tout cas, on rejette cette vision qui nous paraît extrêmement simpliste et binaire d'une nécessaire complémentarité entre un homme et une femme dans l'accompagnement et dans l'accueil d'un enfant.
Alors, pour l'accès de la PMA à une femme seule, qui voit effectivement l'horloge biologique avancer, est-ce que ça n'est quand même pas mettre ce modèle familial face à de grandes fragilités? Parce qu'une femme seule peut, par exemple, tomber malade, elle peut avoir de très gros soucis, elle se retrouve seule pour élever un enfant, ce qui est quand même une situation de grande fragilité.
Oui, alors c'est vrai que nous, on a plutôt pris la parole à partir des expériences vécues dans l'association, donc de couples de femmes homosexuelles. Après, nous, ce qu'on reproche souvent aux argumentaires, c'est un dénigrement très fort de la parole des femmes et des personnes qui souhaitent avoir accès à la PMA et avoir un enfant par PMA. En fait, souvent, on leur jette l'opprobre comme si il y aurait une forme d'irresponsabilité. Elles seraient pas en mesure, alors soit parce que leur situation de famille est trop fragile, ou parce que elles seraient dans un désir d'enfant qui serait non maîtrisé ou non contrôlé. Souvent, on jette beaucoup l'opprobre sur les personnes qui veulent accueillir un enfant. Alors que nous, on insiste sur le fait que c'est des personnes qui construisent un projet mûri, réfléchi, et qu'il n'y a aucune raison en fait pour dénigrer en amont, au nom de sa situation particulière, le projet construit d'une personne qui souhaite accueillir un enfant.
Il y a eu un salon, c'était début septembre, un salon Désir d'enfant. avec notamment hein, des exposants, des cliniques, voire des agents spécialisés, voilà, vantant les possibilités, par exemple, de la GPA, qui est quand même ce qui pourrait arriver après. Hein, c'est en tous les cas ce qui est effectivement ce qui est la crainte hein, de certains face à la PMA pour toutes. Au nom de l'égalité, justement. Vous pensez qu'à un moment donné, un jour, David et Jonathan pourra défendre la GPA ?
Alors, je ne sais pas si on défendra la GPA. Je ne peux pas me prononcer sur l'avenir. Pour l'instant, c'est vraiment une question qui fait énormément de débats au sein de l'association, comme en fait au sein de tout l'ensemble des associations LGBT+. Après, il y a quand même déjà une question qui se pose pour les couples qui, par exemple, ont recours à une GPA à l'étranger. Et donc, nous, par exemple, et les associations LGBT en général, défendent la possibilité pour l'enfant d'avoir un statut juridique et administratif qui soit clair à son arrivée en France, mais là, dans une volonté avant tout de protection juridique de l'enfant. Et oui, il faudra certainement un débat sur la GPA dans la mesure où c'est une mesure qui aujourd'hui est à l'ordre du jour dans un certain nombre de pays, mais qui pour nous, en tout cas, ne relève pas nécessairement des mêmes enjeux éthiques que la PMA. Et d'ailleurs, la question de la GPA se pose pour les couples hétérosexuels comme pour les couples homosexuels et concerne les deux situations familiales. Donc c'est vraiment une technique distincte, des situations distinctes, des enjeux éthiques distincts et qu'il faudra considérer en tant que tel.
Je vous remercie Cyril de Compiègne. Je rappelle que vous êtes le vice-président et le porte-parole de l'association David et Jonathan. Merci.
Toutes nos valeurs d'humanité d'un coup de folie balayées, la nuit guide
Et Dieu dans tout ça, c'est la chanson phare de l'album à trois voix, Ensemble Liberté, chanté par un trio composé d'un rabbin, d'un prêtre et d'un musulman. L'album sort cette semaine chez Amel Productions, 5 ans après les attentats de 2015 de Paris. Ils sont avec nous dans ce studio. Philippe Darmon est chanteur dans une synagogue. Mathieu Delobier est prêtre et chanteur professionnel. Farid Abdelkrim, bien connu des auditeurs de Religion du Monde, est comédien, humoriste, chanteur, essayiste. Mais je vais commencer par un quatrième autour de cette table qui n'est pas dans le CD, mais en est à l'origine. François Troller, bonjour.
Bonjour.
Avec Fatih Amar, vous avez perdu le 13 novembre 2015 cinq proches, cinq amis. Vous les avez perdus au Bataclan et voilà, c'est l'origine de ce disque dont je rappelle les paroles au début. Dans quel Torah, dans quel Coran, dans quel Nouveau Testament ont-ils trouvé cet héritage d'un autre âge ?
Tout à fait. Il y a eu deux événements qui nous ont marqués avec Fatih Amar, qui était mon associé. C'est ces attentats du Bataclan. Nous avons perdu beaucoup d'amis. Et surtout, l'assassinat du père Amel, il y a maintenant 4 ans. Et c'est au lendemain de l'assassinat du père Amel qu'on s'est dit, qu'est-ce que nous, attachés de presse du milieu de la musique, on peut faire pour que la religion ne soit pas que synonyme de violence, de haine et de guerre. Donc on a réfléchi et on s'est dit, tiens, pourquoi on montrait pas ce groupe avec un prêtre, un rabbin et un imam ? Voilà, l'idée est née le lendemain de l'assassinat du père Amel. C'est pour ça qu'on a appelé notre société Amel Productions, en mémoire du père Amel, et qu'on s'est mis en quête de trouver ces trois personnes, bons chanteurs, humanistes, avec des vrais parcours de vie, engagés dans leur religion, pour porter ce projet. Et on est donc très content qu'il arrive enfin.
Difficile à trouver.
Oui, très difficile, parce qu'on était très exigeants sur les voix et sur le parcours de chacun. Il fallait vraiment les deux.
Philippe Darmon, je me tourne vers vous. Donc, vous êtes chantre. Alors, quelques précisions quand même pour nos auditeurs. Chantre, c'est celui qui chante, non ? J'ai une synagogue.
Tout à fait. Chantre, c'est celui qui chante les offices à la synagogue et qui fait la prière pour tout le monde. Il y a une personne qui est fait à voix haute en chantant et les autres fidèles participent, répondent. Mais c'est le chantre qui guide et qui dirige l'office.
Vous êtes plutôt ténor ?
Oui, tout à fait. Bon, je vais chanter dans toutes les opéras, la partie ténor, et la voix se situe plutôt en haut. Mais bah, après, c'est vrai que dans la synagogue,
c'est différent.
C'est différent. On peut adapter un peu la voix, mais la tessiture, elle est tout au niveau ténor. Ouais.
Alors, Mathieu Delobier, Vous êtes prêtre hein, depuis l'âge de 51 ans, ça veut dire qu'il n'y a pas très longtemps, non. Manifestement. Et vous êtes, alors, vous avez été journaliste,
oui.
et puis vous êtes chanteur professionnel.
Oui, j'ai été journaliste d'abord, mais en fait, je venais du théâtre et j'ai fait du journalisme en me disant j'ai besoin de vivre en attendant de devenir chanteur. Non, j'ai adoré ce métier, mais je suis vraiment devenu chanteur et ça a été mon métier, ma passion, ça reste ma passion. Évidemment, je l'exerce peut-être moins intensément qu'avant, mais quoique, comme prêtre, la première chose que je fais le matin, mais la première chose, c'est de chanter. Voilà, je chante « Seigneur, ouvre mes lèvres et que ma bouche publie ta louange », c'est-à-dire les psaumes du matin. Donc le chant, c'est toute ma vie, tout le temps, du matin au soir.
Farid Abdelkrim, alors, moi je vous connais, enfin nous vous connaissons comme comédien, comme humoriste. Moi, je ne vous connaissais pas comme chanteur.
Eh oui, comme quoi j'ai plusieurs cordes à mon arc et celle-là vient de sortir grâce au projet, grâce à François et puis surtout grâce à cette rencontre avec Philippe et Mathieu. Parce que c'est pas le tout de chanter. Alors moi je suis ni baryton ni ténor, je sais pas où je me situe. Moi je suis un petit peu l'escroc de l'affaire, je suis celui qui arrive et qui chante un petit peu au feeling et le fait de dire que c'est au feeling, on le fait aussi par rapport à ce qu'on entend et ce qu'on écoute des autres et de les avoir entendus chanter tous les deux, effectivement, ça donne envie de venir avec beaucoup d'humilité. Placer sa voix et faire quelque chose qui a vraiment du sens. On est vraiment dans un projet qui a du sens et donc voilà, je chante parce que j'aime ça et je chante aussi parce que je pense que c'est un beau projet.
Oui, Farid Abdelkrim, je rappelle votre parcours. Hein, vous étiez un membre des Frères musulmans et puis vous les avez quittés, vous avez écrit un livre. C'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est connus, pourquoi j'ai quitté les Frères musulmans. Puis après, vous êtes devenu acteur, comédien, voilà. Et toujours avec cette... en ligne de mire, lutter contre la radicalisation, parler aux jeunes des banlieues, voilà, s'exprimer auprès d'eux pour que voilà, ils évitent de tomber dans le piège de la radicalisation.
Oui, ce que je dis en général, c'est que avant de devenir frère musulman, je chantais moi aussi, mais ça c'est dans une autre vie, je devais avoir 17 ans, 18 ans et je chantais dans un groupe de rhythm and blues et j'ai arrêté la musique justement à cause de ma conversion à l'islam, pensant à l'époque que la musique était illicite, haram, et 25 ans après, dans mes spectacles, mais surtout dans cet album, j'ai renoué avec cette passion, qui est aussi une passion effectivement, et donc nous y voilà.
François Treuler, la conception de l'album, on a entendu hein, au début cette la première chanson qui est le clip, hein, et Dieu dans tout ça, donc la musique de Francis Lai. Et les paroles de Frédéric Zetoun. Voilà.
Tout à fait, oui.
Hein, ça, c'est ça. Après, il y a, en fait, des tubes. Vous reprenez tous des tubes.
C'est ça. Dans l'idée, je voulais pas qu'on fasse uniquement un album de reprise. Je voulais qu'on marque un petit peu la différence avec d'autres projets qui ont pu être faits, en ayant quelques inédits. Surtout qu'on avait une thématique assez forte, c'est le vivre ensemble et la tolérance. Donc, la ligne directrice, c'était des chansons sur ce thème-là et si possible, quelques inédits. Donc, nous sommes allés solliciter quelques amis artistes. Et donc, on a eu ce cadeau de Francis Lai qui nous a composait cette chanson qu'il a maquettée quelques jours avant de mourir. La maquette a été faite chez lui quelques jours avant son décès, sur ce très beau texte de Frédéric Zetoun, qui traite des conséquences des attentats sur la religion. Donc c'est le premier extrait. Ensuite, on a eu un très beau texte de Marc Lavoine, et un inédit signé par nos trois amis ici présents, qui ont chacun écrit un couplet de la chanson à l'unisson, qui est une sorte de prière de fin d'album, qui est très 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 jolie également. Donc c'est important d'avoir des inédits et des reprises, de chansons connues ou moins connues sur le thème du vivre ensemble, de la tolérance. On va pouvoir découvrir par exemple l'Olivier de Wallen, qui est pas forcément connu du très grand public, mais aussi chanté pour ceux de Michel Berger, ou Bravo Monsieur le Monde de Michel Fugain, donc des chansons très différentes, mais toujours sur cette ligne directrice du vivre ensemble, de la tolérance.
Et de la beauté aussi.
Et de la beauté, évidemment.
Alors on va écouter Pour le ciel, donc interprété par vous trois, Pour le ciel de Marc Lavoine.
Pour l'appel, l'amour éternel, la prunelle de tes yeux. Pour Angèle, pour Abdel, pour les Samuel, pour le miel, pour l'universel, la prunelle de tes yeux.
cesse le feu, pour que cesse le feu.
Farid Abdelkrim, je vous vois quasiment danser sur cette air. Ça vous a plu pour Le ciel de Marc Lavoine?
Ah, très très très, très joli morceau. Moi, tous les morceaux de l'album me plaisent. Et puis, s'il y en avait d'autres, ils me plairaient aussi. La musique a ce site particulier, c'est qu'elle peut vous transporter, vous amener à faire fi de toutes les différences, dans le sens où on peut se rapprocher de plein de monde, parce que ça a ce côté universel. Et ouais, cette chanson Pour le ciel est une très très belle chanson, avec une très belle mélodie, et puis les paroles aussi me plaisent beaucoup, donc ça me fait bouger. Ouais, j'ai la bougeotte quand j'entends de la musique.
Mathieu de Laubier.
Oui, c'est la première chanson que j'ai enregistrée en arrivant sur le projet, et je trouvais qu'elle était pleine de poésie, pleine de... Alors, pour la petite histoire, je l'avais en tête quand je suis rentré le soir pour... Et puis j'ai rencontré mes collègues prêtres, je leur ai chanté, et c'est devenu un peu le tube de la cuisine du presbytère.
Et Philippe Darmon, vous, cette chanson?
Alors, c'est vrai que j'adore cette chanson, mais je peux pas dire que j'ai une préférence vraiment pour une des chansons. En général, moi, j'aime la musique. Dès que c'est bien fait, dès que c'est beau, j'adore. Donc, pour moi, naturellement, cette chanson est magnifique, mais je pense que toutes les chansons de l'album, et au niveau de l'air, et au niveau des paroles, sont très bien interprétées grâce à mes collègues, et bien aussi mis en musique et mis en avant.
Des paroles faites pour élever, Farid Abdelkrim?
Je pense que ici autour de cette table, je ne pense pas me tromper en disant que de François à vous, Geneviève, en passant par Philippe, Mathieu et moi-même, on a tous cette volonté, cette prétention à connaître des moments comme ça d'élévation spirituelle, quelle que soit la tradition qui est la nôtre. Et la musique, incontestablement, permet de connaître de temps à autre, comme ça, au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme, voilà, des trucs qui se passent. Et c'est un morceau qui, par son texte, nous amène à méditer quelque peu. Même si la méditation, je l'entends peut-être aussi un peu différemment, notamment à travers le silence. Je crois que après un morceau comme ça, c'est bien de s'arrêter sur un silence. Et je pense que les deux vont bien ensemble.
Alors, il y a une chanson qui m'a étonnée, mais qui est très belle, hein, dans cet album. C'est la chanson Françoise Hardy et Mon ami la rose. Quelques extraits.
On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis né, baptisé de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin.
Alors Philippe Darmon, là c'est là, c'est vous que j'entends là.
Le dernier,
là, oui, c'est vous, hein, c'est bien vous. Ça vous a plu de la chanter?
Des ténors, hein, c'est quand même. tu vois que t'es ténor.
Pour moi, d'abord, d'ailleurs, c'est un exercice que j'avais pas l'habitude.
Eh oui.
Moi, je chante qu'en hébreu en général, et j'ai accepté pour la première fois de chanter en français, mais je vous assure que l'exercice m'a énormément plu.
Ça vous a pris quoi?
Déjà un autre répertoire, des rencontres magnifiques, et des choses qu'on n'a pas trop l'habitude de faire en général, donc ça sortait un peu de l'ordinaire, et à part le message extraordinaire que cet album veut montrer aux gens, donc oui, j'ai adhéré complètement, et je l'ai fait avec beaucoup de plaisir.
Quel message? Et mon ami la rose, Mathieu.
C'est le message de la fragilité. Je trouve que c'est une chanson qui est touchante, parce que c'est vraiment la chanson qu'on chante. On prend sa guitare Et puis on chante comme ça, doucement, sur le souffle, tranquillement, il n'y a pas de... Vocalement, c'est très paisible. Moi, ça me renvoie à mes premières expériences de chant, hein, quand j'étais petit scout et qu'on chantait autour du feu, on sortait les guitares, on devait jouer super faux, chanter super faux, mais pour moi, ça va... Dans le fond, je suis resté ça, c'est ça que je suis resté au fond de moi. C'est que... Le chant, c'est ce genre de chanson qu'on chante comme ça sur le fil, doucement, avec un souffle de voix, avec quelques accords. C'est le bonheur d'être là. Voilà.
Farid Abdelkrim, cette chanson et Mon ami la rose, qu'est-ce qu'elle vous apprend? Qu'est-ce qu'elle vient faire là, dans cet album?
Oh bah plein de choses. Moi, ouais. De toute façon, comme je le dis, on n'a pas eu le choix. François était là et nous a dit, vous allez chanter ce que je vous demande de chanter, point
c'est
barre.
C'est comme ça.
Non, je plaisante, c'est une blague. Non, moi, en fait, plein de choses, mais il y a un truc vachement intéressant dans le couplet que je chante, moi, oui. Mais je pense que peut-être que Philippe et Mathieu s'y retrouveront, c'est que je chante à la première personne du singulier, au féminin. Et ça, je trouve ça vachement intéressant de voilà, un mec qui est d'origine méditerranéenne, un peu macho sur les bords, se mettre dans la peau comme ça d'une rose, d'une femme, de quelqu'un de fragile. Et ouais, c'est plutôt sympathique.
Qui va vieillir, ouais, aussi. Ouais.
Non, mais c'est voilà, il y a ce petit truc sympathique que moi j'ai vécu. Et puis c'est une très 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 belle chanson, vraiment une très belle chanson.
Magnifique. Alors on se quittera sur À l'unisson. C'est un peu la chanson de conclusion, hein.
C'est comme l'a dit tout à l'heure François, c'est effectivement avec ça qu'on conclut l'album. On avait chacun la charge de trouver quelque chose à dire qui pouvait nous marquer sur le moment, au moment où on l'a dit. Et en tout cas, moi, il me semblait qu'il était important que je parle de cette notion de vérité que tout le monde prétend détenir, la vérité avec un grand V. Or, je crois, moi, qu'on a juste une petite partie de cette vérité, que c'est ce qu'il faut pouvoir partager. Et donc, ouais, terminer avec ce morceau, c'est très très bien. Mais l'album peut s'écouter dans tous les sens.
Je suis d'accord. Philippe Darmon,
je voudrais juste remercier Christophe pour les arrangements qu'il nous a...
Christophe, attendez son nom de famille.
Christophe Cazalave, qui voilà. A fait la réalisation, tous les arrangements vocaux et une partie des compositions. Et
pour ma part, j'avais l'impression que même les chansons connues, c'était une nouvelle chanson.
Absolument.
Oui, bah, Mathieu, je participe à ce Mathieu concert Debier. De louanges. Et puis, cette chanson, elle est osée quand même, hein, parce que c'est carrément une profession de foi qu'on nous a demandé. Je ne sais pas si dans le monde de la chanson, on a tellement l'occasion de dire comme ça, de parler en mots simples et francs de notre relation à Dieu et notre relation aux autres, un peu sans détour. Je trouvais que c'était osé.
Merci à tous les quatre d'être venus pour donc cet album.
Merci, hein, à vous.
Liberté, qui sort le 9 octobre prochain chez Amel Productions. Amel, donc, du nom du prêtre assassiné aujourd'hui, qui est une figure interreligieuse, en fait. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci.
Chantons en chœur avec la foi. Il n'y a qu'un Dieu pour toi et moi. À l'unisson d'une même voix.
Et c'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delerue, Ludivine Amado vous donnent rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.